Il peut être incarné par Rawls et puis la seconde école de Francfort, Honneth, Habermas ou Carlotto Apple. Il peut aussi être incarné par Alain Tourelle en sociologie, qui a voulu voir, qui a estimé voir émerger des nouveaux sujets d'histoire dans les années 70. Puis ensuite, on s'accorde, semble-t-il, pour penser que les théories postmodernes ont en partie au moins, fait le jeu d'un certain capitalisme en régénérant l'esprit, d'où le souci, depuis une décennie ou deux, de s'atteler de nouveau à l'élaboration conceptuelle. La critique foucauldienne, de son côté, a commencé à paraître limitée, étant difficilement capable de rendre compte des fondements de sa critique, et ne parvenant donc pas à déboucher sur des alternatives autres qu'éthiques et fragmentaires. Si le pouvoir est partout, alors on ne peut pas en sortir. Les pronostics de Tourelle, de leur côté, ne sont sans guère vérifiés. Rawls et Habermas ont semblé s'inscrire dans une critique assez abstraite, formelle, dénuée de conséquences pratiques. Le retour des mouvements sociaux, l'altermondialisme notamment, mais aussi les mouvements religieux, ont suscité de nouvelles élaborations, de nouvelles propositions. Et cela a augmenté encore la diversité possible d'approche de la critique. Un problème alors commençait à se poser, celui de se repérer. Des cartographies ont commencé à émerger récemment, comme celle de Razmik Kocheyev ou celle de la Revue des Livres et des Idées, tous deux publiés en 2010. La bibliographie mobilisée par ces deux ouvrages a de quoi décourager. Quelques grandes lignes émergent toutefois. L'une d'entre elles est le retour en grâce du marxisme, avec Alain Badiou, Zizek, David Harvey, Art et Negri, et puis le succès du Congrès Marx International depuis près d'une décennie. Un marxisme ouvert, débarrassé des lectures staliniennes. Un marxisme académique aussi, avec peu d'intellectuels organiques, au sens de Gramsci. Une autre est l'attention portée à l'événement, à l'incertitude, à la créativité sociale. Je pense à, là aussi à Badiou, Laclos et Boltanski. À défaut de décrire les conditions de la révolution, les pensées critiques en restaurent la possibilité. Une troisième caractéristique est l'attention portée à la subjectivité dans son rapport à l'institution, avec notamment l'extraordinaire omniprésence de Lacan dans les débats sur l'émancipation. Souvent accusée de relativisme, la période de déconstruction peut aussi être comprise comme une quête de nouvelles subjectivités, de nouvelles théories critiques. Un tel geste est indissociable d'une réflexion sur la posture du sociologue et son utilité sociale, si l'on peut dire. Le parcours personnel de Luc Boltanski, auteur d'un ouvrage marqué sur ce qu'est ou devrait être la critique en sociologie, illustre cette évolution. À la sociologie de Bourdieu, jugée excessivement surplombante, il oppose d'abord une démarche dite pragmatiste qui prend en compte les compétences des acteurs et cherche à en rendre compte d'une manière assez structuraliste, ainsi dans la justification. Près de deux décennies plus tard, il continue de réaffirmer cependant la nécessité de ce qu'il appelle une métacritique, c'est-à-dire d'un appareil théorique permettant de monter en généralité, de sortir des innombrables cas empiriques qui alignent les faits sans les lier, sans réussir à les lier les uns aux autres. Mais il faut avouer que ce projet n'est pas encore très élaboré chez cet auteur, et l'appel à la révolte par lequel il termine son ouvrage ne peut combler ce manque, sauf à reconnaître l'impuissance de la critique sur le plan intellectuel. Donc on retrouve donc ces problèmes de consistance et d'unité de la métacritique avec une prolifération de théories qu'il est difficile d'articuler les unes aux autres. Les quatre axes qui structurent ce colloque se situent dans ces différentes filiations. Et ils se trouvent confrontés aux mêmes problèmes de consistance et d'unité de la métacritique. L'axe 1 pose la question de l'impératif de croissance, généralement considéré comme un élément cardinal de toute solution possible aux problèmes actuels, dans sa relation avec ses effets écologiques et sociaux. L'axe 2 peut être situé à la suite des travaux de Foucault, évidemment. L'impératif de durabilité peut être mis au service d'un gouvernement par les normes, d'un ensemble de micro-dispositifs gestionnaires qui orientent les conduites de manière plus ou moins forcée. par la présence ou l'absence de tels dispositifs techniques, d'amendes, etc. Le tout en soustrayant, et c'est là le point important, les enjeux sociétaux de la scène publique, en neutralisant les antagonismes. Il s'agit alors, de la part du pouvoir, de faire preuve de pédagogie, pour reprendre le terme examiné par une communication, voire de coercition, en évitant de politiser les enjeux, en évitant de remettre en cause l'ordre établi. La durabilité s'étant manifestée avec la mise en cause des choix techniques, l'axe 3 examine si les politiques et pratiques mises en œuvre au nom du développement durable ou de la démocratie technique engendrent véritablement plus de démocratie ou s'il ne s'agit pas de quelque chose d'autre, par exemple d'un remplacement d'experts par d'autres experts, sans véritable changement de direction dans l'exercice du pouvoir. L'axe 4 cherche à s'interroger sur le statut de cette justification écologique, terme proposé par Thévenot et Laffaye en 1993, au lendemain du sommet de la Terre. On se souvient que l'article posait trois possibilités, mais n'était guère conclusif. L'appel à la nature comme source de justification ne pouvait guère se réduire aux cités existantes, donc les six cités existantes, industrielles, marchandes, domestiques, etc. De cela, les auteurs en convenaient, mais savoir s'il devait être considéré comme une septième cité ou s'il remettait en cause l'ensemble restait incertain. La majeure partie des communications s'intéresse aux effets réels, notamment sociaux, générés par la justification écologique, par opposition aux vertus consensuelles affichées par le développement durable. Pour ouvrir les débats, j'oserais une hypothèse, puisque c'est la durabilité et ses approches critiques qui sont interrogées. Si les pensées postmodernes ont pu partiellement alimenter ce qui se présente maintenant comme une hypermodernité, c'est parce qu'elles ne s'en sont pas réellement prises au cœur de la modernité, qui est le processus d'accumulation. Celui-ci n'a pas véritablement été remis en cause. Il s'est modifié de telle manière à incorporer les demandes qui étaient incorporables. La différenciation des styles de vie, selon l'identité revendiquée, fait partie de ces possibles. L'expansion mondiale du marché n'a pas cessé pour autant, ni les gains de productivité, bien au contraire. Les critiques telles que celles de Rawls ou d'Habermas, ou même celles des néo-marxistes, ont rendu les systèmes moins inégalitaires localement, mais n'en ont pas changé la dynamique. C'est la crise de 2008 qui a ébranlé le processus d'accumulation. Une crise dont nous ne sommes pas sortis. Du coup, si les sciences sociales ont essayé de s'écarter de toute téléologie, sur le plan théorique, tel n'a pas été le cas de la vie moderne. Une vie moderne toujours orientée par ce progrès, issu de l'accumulation et de la division du travail. L'arrivée des technologies de l'information et de la communication et le discours qui les a accompagnées sont un exemple parmi d'autres. Il suffit de parcourir les orientations de politique générale de l'Union européenne pour s'en rendre compte. La quête d'une croissance verte, le choix de développer les nanotechnologies, le nucléaire, la séquestration de carbone et même les technologies de l'information est une conséquence immédiate de ce que l'économie a appelé la durabilité faible, qui fait primer le marché et l'accumulation, bref, le PIB, sur toute autre considération. Le marxisme, en se concentrant sur la critique de la production, a laissé largement de côté la question de la valeur d'usage, c'est-à-dire des satisfactions produites par le règne de la marchandise. Convenant que nous bénéficions largement, en France, de ce règne de la marchandise, et plus généralement, c'est le cas dans les pays industrialisés. Qui ne s'est pas émerveillé devant le dernier produit high-tech, iPad, GPS, accélérateur particules? Ils sont pourtant directement le produit de l'accumulation. Ils sont dans la ligne droite de ce qu'Adam Smith, Ricardo ou Marx à leur suite ont décrit, ce qui explique d'ailleurs que les futurologues nous prédisent à peu près le même avenir depuis un siècle. Plus vite, plus loin et moins cher. Bref, le progrès, la domination de la nature entendue comme un processus qui permet de surmonter les limites opposées par l'espace et le temps, par l'imperfection de la vie. La formation progressive d'un quart monde dans les pays du Nord occulte le fait qu'un Français moyen consomme l'équivalent de trois planètes et bénéficie largement du processus d'accumulation, y compris via les délocalisations qui font baisser le coût des produits. Une automobile a ainsi vu son coût chuter de 30% au cours des 20 dernières années, en monnaie constante. Penser l'écologie, penser la durabilité conduit nécessairement à critiquer une telle perspective. Et cela pose un problème d'une toute autre ampleur, que la question des limites à la croissance ou de la décroissance rend palpable, parce qu'elles mettent explicitement en question ce processus d'accumulation. Et ici, l'enjeu qui émerge est moins la question de la prise en compte des limites physiques ou naturelles à l'intérieur du cadre existant, discours qui est celui de la modernisation écologique, que de voir ce cadre remis en cause, un cadre qui se prétend dépositaire de l'universalité, comme en témoigne encore la dichotomie entre pays développés et pays en développement dans les relations internationales. Nous devons nous rendre compte que nos porte-paroles, pour parler comme Boltanski à la suite de la Tour, ne cessent de promettre dans le monde entier qu'ils sont capables d'intégrer tout le monde dans le cadre de la modernité, pourvu que les intéressés fassent les efforts nécessaires. Si la modernité est universelle, c'est parce qu'elle est la seule porteuse de l'humanisme. C'est comme ça qu'elle se définit. C'est-à-dire d'un mode de vie qui réalise les potentialités de l'être humain. Les développés sont les seuls à être véritablement humains, en quelque sorte. Les autres sont sur le chemin de l'humanité, mais encore engoncés dans la sauvagerie, la superstition et la répétition, comme l'a démontré à nouveau le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar. Et depuis un siècle et demi, libéralisme et marxisme s'entendent pour voir dans l'accumulation et la libération des forces positives un élément émancipateur par rapport aux autres sociétés, impliquant toutes sortes de transformations bénéfiques, quoique inégalitaires, telles que le passage de la société à la communauté, la différenciation plutôt que la polyvalence, la richesse plutôt que la pauvreté, l'État plutôt que la religion, la démocratie plutôt que la violence et la segmentation, etc. Se pose pourtant la question de l'universalisabilité de cette modernité, en raison notamment de l'écologie, et quand celle-ci pose la question des limites à la croissance, le développement étant généralement défini, rappelons-le, comme un régime de croissance stable. Est-ce vraiment cela, être humain? Ou n'est-ce qu'un particularisme, dans le temps comme dans l'espace? De là s'explique que l'écologisme ait souvent été appréhendé comme anti-humaniste. De là les affinités électives entre écologisme et un certain post-colonialisme, qui ne cherche pas seulement à démontrer que la modernité aurait pu se produire ailleurs, mais qui cherche aussi à ouvrir d'autres voies vers l'universel. On pense ici au célèbre discours du chef Seattle, qui est peut-être faux, mais peu importe, il fait sens. Dans ce cas, c'est moins le rapport à la nature entendu comme l'ordre du non-humain qui est en cause, tout le monde est d'accord pour protéger la nature, que la nature comprise comme vérité de l'humain, comme nature humaine. L'hésitation de Thévenot et Lafaille et le caractère éclectique des contributions du premier axe du colloque militent une nouvelle fois dans cette direction, me semble-t-il. Poser la question de la croissance, c'est avant tout poser la question de l'universel, c'est-à-dire de cette anthropologie philosophique, de cette commune nature humaine dont Boltanski affirme avec raison qu'elle est au fondement de toute critique possible. La sociologie ne peut pas y couper. Soit elle reprend la conception dominante de l'être humain, homo economicus ou homo modernicus, et dans ce cas elle entérine l'ordre établi, en appréhendant tout ce qui s'oppose à cet ordre établi comme autant d'obstacles, soit elle les appréhende de manière critique, elle les met en question, elle les met en débat. Et c'est l'objet de ce colloque, de les mettre en débat. Je conclue ici ces quelques mots qui restent nécessairement parcellaires et elliptiques, et je nous souhaite que nos travaux soient fructueux. Je vous remercie de votre attention.